en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Valérie Pécresse, a prononcé une communication sur la réforme des universités le 29 juin 2009 lors de la séance hebdomadaire de l'Académie des sciences morales et politiques. Canal Academy vous propose d'écouter la retransmission de cette séance qui s'inscrit dans le cadre du thème annuel « Sciences, universités et recherche dans la France d'aujourd'hui » sous la présidence de Jean-Claude Casanova, membre de l'Institut. Retrouvons la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Valérie Pécresse, en salle des séances.
Monsieur le secrétaire perpétuel, mesdames et messieurs les académiciens, alors je suis évidemment très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour clore le cycle de séances publiques que l'Académie des sciences morales et politiques a souhaité cette année, et c'était évidemment judicieux, consacrer à l'université, la science et la recherche dans la France d'aujourd'hui. Alors je vous remercie, cher Jean-Pierre Casanova, de me donner l'occasion de contribuer ainsi au débat public en soumettant à l'avis de vos pairs, qui sont évidemment d'éminents spécialistes de la question, ma vision de l'université dans la France de 2009. Parce que je crois que c'est important de dire que cette réforme, on n'est pas pour la réforme pour elle-même, on ne sert pas la réforme pour elle-même, on la met au service d'une vision. Et nous avons besoin de penser l'université pour construire ensemble une vision partagée de son avenir. Et en pensant l'avenir de l'université, je pense que c'est l'avenir de notre pays que nous concevons. Alors l'action politique ne s'exonère pas d'une pensée sur des sujets qui ont des enjeux aussi stratégiques pour la France. Des universités, oui, bien sûr, mais pourquoi, pour qui et pour quel projet de développement humain, de développement social, culturel, économique ? Toutes ces questions, je le sais, ont animé vos débats chaque lundi. Et ce sont aussi mes questions, celles auxquelles, depuis plus de 2 ans, je ne cesse de proposer des réponses. Alors, évidemment, l'action politique doit assumer la réforme quand elle est nécessaire. Et je crois que la réforme des universités était nécessaire, que les universités françaises l'attendaient. Le président de la République et le Premier ministre m'ont demandé de la mener et de conduire, et c'était le socle de la réforme, de conduire les universités sur le chemin de leur autonomie. Pourquoi l'autonomie ? Mais tout simplement pour bâtir des projets d'établissement, faire des choix stratégiques de recherche et de formation, mener une véritable politique de recrutement, gérer un budget global. On m'a souvent dit, la gestion, ce n'est pas la science, mais en réalité, la gestion doit être au service de la science. Et une bonne gestion nourrit une bonne science et une qualité de formation. L'idée, les valeurs qui sous-tendent la réforme sont des valeurs de liberté et de responsabilité. Donner à chaque établissement davantage de liberté, mais pour qu'en échange, il assume davantage de responsabilité. C'est un défi que aujourd'hui toutes les universités doivent relever. Alors, depuis le 1er janvier dernier, il y a 20 universités qui sont devenues autonomes. Et bizarrement, ça n'a pas fait grand bruit. Ça veut dire que vous savez, c'est un peu comme le bug de l'an 2000. Quand on passe l'an 2000 et qu'il n'y a pas de bug, on ne se rend même pas compte de tout le travail très, très profond qui a été mené par les informaticiens pour prévenir ce bug. Mais le passage à l'autonomie au 1er janvier 2009, en lui-même, est une prouesse en ce qu'il n'a pas suscité de bruit. Et les mouvements que nous avons connus dans les mois passés, durant les mois passés, ce sont des mouvements qui n'ont pas été dus au passage à l'autonomie, mais qui sont des mouvements contre l'autonomie, mais des mouvements théoriques, contre l'autonomie théorique, pas des mouvements contre l'autonomie réelle. Et ça, c'est quelque chose qui mérite, c'est un paradoxe qui mérite quand même d'être souligné. Et d'ailleurs, j'allais dire, l'appétit pour l'autonomie ne se dément pas, puisque je suis en ce moment en train d'examiner 31 dossiers de demandes de passage à l'autonomie pour 2010. Ça veut dire, à supposer que ces 31 dossiers puissent avoir tous un avis favorable, ça veut dire que du ministère des Finances, qui évalue leur capacité à être autonome après des audits que nous faisons avec l'inspection générale du ministère, ça veut dire que peut-être l'année prochaine, enfin en tout cas, j'allais dire, même dans le scénario le plus pessimiste, plus de la moitié des universités françaises seront autonomes en 2010. Donc malgré les résistances, malgré les réticences, malgré la rue, le mouvement d'autonomie se poursuit. Et il ne pourrait pas se poursuivre s'il n'était pas, au fond, soutenu par une grande majorité de la communauté universitaire qui la souhaite. Et pourquoi est-ce qu'elle la souhaite? Et pourquoi est-ce que je la souhaite? Mais parce que c'est le pari de la confiance, l'autonomie. C'est le pari de la confiance de l'État dans la capacité des universitaires à relever tous les défis. Les défis de l'exigence intellectuelle, de la qualification des étudiants, mais aussi de leur insertion professionnelle et des liens avec le monde socio-économique. Et c'est une vraie question cruciale qui est au cœur de la réforme, ce lien entre le public et le privé, entre l'université et ses partenaires sur un territoire. Alors, la loi du 10 août 2007 va donner du poids à l'université française. Elle en fait un acteur économique et social central, mais aussi un acteur de recherche central. Elle lui offre la possibilité de participer pleinement à notre projet de société. J'ai entendu le président de la République parler de projet de civilisation. Il ne peut pas y avoir de projet de civilisation sans une grande université qui rayonne. Alors, j'ai entendu évidemment certaines voix s'élever contre cette liberté nouvelle, qui a été perçue parfois comme une menace faite à l'indépendance des universitaires, faite aux libertés académiques. J'ai entendu les présidents d'universités se voir désignés par leurs pairs comme des dictateurs en puissance. Alors, c'est une vision qui est très caricaturale de la réforme, je tiens à le dire, et c'est une vision que rien ne vient étayer. Et surtout pas, je vous dis, l'exemple des 20 universités qui actuellement jouissent de compétences et de responsabilités élargies. Aucun de leurs présidents n'est un dictateur. Ils ne sont pas autodidactes parce qu'ils sont professeurs d'université tous, et, ou grands chercheurs. Et aucun n'est un dictateur et aucune université aujourd'hui n'a perdu son indépendance du fait de l'autonomie. Au contraire, j'allais dire que dans tous les autres pays, l'indépendance ne vient certainement pas d'un statut de fonctionnaire qui serait vécu par la quasi-totalité des universitaires dans un autre pays que la France, comme un asservissement à l'État, mais au contraire, l'indépendance, davantage d'indépendance encore, peut venir de cette autonomie. Alors, mon dialogue constant avec la communauté universitaire durant ces derniers mois, dans sa diversité et parfois dans ses contradictions, m'a, je dois le dire, ouvert les yeux sur la nécessité qui est la nôtre. Désormais, de refonder une véritable collégialité universitaire, animée des valeurs de l'université. Collégialité parce que j'ai ressenti vraiment que dans l'organisation même du fonctionnement de l'université, nous n'étions pas arrivés à un point satisfaisant d'équilibre. Donc il faut faire vivre dans cette collégialité les valeurs de l'université. Pour moi, ces valeurs, c'est évidemment la liberté, mais c'est aussi son corollaire qui est l'évaluation. C'est la transparence, mais c'est aussi la transmission. Donc il faut absolument que nous arrivions à construire ces nouveaux équilibres au sein des universités autonomes. Et la réforme de l'université, ce n'est pas seulement le renforcement du pilotage des établissements. Bien sûr, il faut que les établissements soient davantage pilotés, si ce n'est plus l'État qui les pilote. Mais c'est aussi la reconstruction d'un corps, à la fois corps universitaire, à la fois respectueux de la liberté scientifique individuelle, mais aussi, et ça, ça va être le défi, tendu vers un objectif partagé. Et cet objectif partagé, c'est le rayonnement de l'établissement auquel on appartient. Je me permettais cette comparaison, je crois qu'il faut passer peut-être du statut de professeur des universités au statut de professeur d'université. Et c'est pas seulement sémantique. Je pense qu'en se reconnaissant comme professeur des universités, on se reconnaît comme en réalité même indépendant par rapport à l'établissement dans lequel on exerce ses fonctions. Alors qu'un professeur d'université et le professeur d'une université avant tout. Et ça, c'est quelque chose qui... cet objectif partagé dans la vie de l'établissement, c'est quelque chose qui reste à construire. Je crois que l'autonomie, c'est évidemment une pratique de la liberté et de la responsabilité, c'est la capacité des acteurs à se doter eux-mêmes de leurs propres règles de fonctionnement. Et quand je dis eux-mêmes, c'est que l'autonomie ne se conçoit pas en attendant tout de l'État. Et qu'en attendant de l'État la loi parfaite, la loi ultime, la loi qui réglera au mieux tous les rapports humains dans chaque université du territoire, ben on se voue nécessairement à l'échec. Parce que cette loi ultime, cette loi parfaite, elle n'existe pas. Et si on essaie de la rechercher, on la recherchera au détriment de l'efficacité même de la réforme, de la réussite même de la réforme. Alors, Une pratique de la liberté et de la responsabilité qui doit se partager, se déléguer et s'organiser. Et vraiment, j'ai été frappée pendant ces six derniers mois par la force des méfiances qui animent la communauté universitaire. Et j'ai presque envie de dire que l'anxiété de cette communauté est paradoxalement presque proportionnelle à la qualité de ses membres. Je crois que les universitaires n'ont pas confiance en eux-mêmes et ils n'ont pas confiance dans leurs collègues. Et cette confiance, elle doit vraiment être à la source de l'autonomie. Alors, peut-être qu'on paye le prix du passé et que les universitaires doivent retrouver dans notre pays, et que c'est le rôle de l'État et c'est le rôle du ministre, la légitimité sociale et la place symbolique que 25 ans d'abandon de l'université, par des gouvernements de droite comme de gauche, ont sapé dans l'indifférence quasi générale. Donc, tout autant que les questions de gouvernance, je crois que la question du métier d'universitaire et de sa valorisation, de sa reconnaissance dans la société, de son attractivité, est au cœur de la réforme. Et que nous avons fait un choix, je le dis, celui de permettre à l'excellence des universitaires de s'exprimer plus librement au sein de nos universités. Et c'est vrai que quelle est la richesse d'une université si ce n'est pas les hommes et les femmes qui la composent plus que partout ailleurs, puisque c'est la matière grise et c'est leur capacité d'initiative et de créativité qui va faire la différence dans l'établissement. Donc, pour accroître l'attractivité du métier d'enseignant-chercheur, la revalorisation des carrières me paraît un préalable. Alors nous allons l'engager dès aujourd'hui. Le nouveau statut était nécessaire pour la faire, mais nous allons augmenter les salaires d'entrée des jeunes maîtres de conférences de 12 à 25% en prenant le doctorat non plus seulement comme un diplôme, mais comme une expérience professionnelle avec un contrat doctoral de droit public qui permettra à chaque docteur d'être recruté dans le secteur public comme dans le secteur privé en pouvant se prévaloir d'une vraie expérience professionnelle, ce qui se traduit mathématiquement et j'allais dire automatiquement par des augmentations de salaire. Et nous prendrons aussi en compte la période postdoctorale, donc les salaires des maîtres de conférences dans cette année 2009 de crise, au recrutement augmenteront entre 12 et 25 %. Il n'y a pas beaucoup de salaires d'entrée qui augmenteront autant cette année. Nous doublerons les taux de promotion, à la fois pour les maîtres de conférences et pour les professeurs, y compris pour les professeurs à la classe exceptionnelle, parce qu'il y a des goulets d'étranglement qui sont tels que nous enregistrons des frustrations, des amertumes et parfois des départs. Donc il faut une carrière plus fluide et une carrière qui fasse plus de place au mérite. Alors nous allons créer des primes, et notamment une prime de responsabilité pédagogique qui sera cumulable ou pas avec une prime d'excellence scientifique. Et ces primes reconnaissent l'enseignement et la recherche à égalité de valeur, parce que la mission de transmission et la mission de recherche sont deux missions essentielles de l'universitaire. Alors, pour promouvoir l'excellence, nous augmenterons de 50% les places à l'Institut universitaire de France et nous créerons 130 chaires d'excellence pour les jeunes talents universitaires dans un concours conjoint organisé entre les universités et les organismes de recherche. Alors, toute cette valorisation de l'excellence et toute cette reconnaissance des carrières, c'est à la demande de l'Académie des sciences que nous la faisons, parce que c'est elle qui a exprimé toute l'importance qu'elle accordait à la fois à l'augmentation des rémunérations et en même temps à la différenciation des carrières universitaires. Alors, au-delà de ces questions très légitimes de reconnaissance et d'accélération de carrière, il y a la redéfinition du statut de l'universitaire. Et cette redéfinition du statut, qui prenne en compte vraiment la complexité du métier d'universitaire, je crois qu'elle était indispensable. Alors, c'est elle qui a suscité les débats les plus vifs, pour employer une litote. Et sur ce statut, nous avons échangé, travaillé et négocié beaucoup. Mais je crois que ce nouveau statut est une étape importante, parce qu'il réaffirme à la fois l'indépendance et l'identité académique des universitaires. Il garantit en toutes circonstances une évaluation nationale indépendante et équitable de l'enseignement et de la recherche, ce qui est quand même radicalement nouveau. Et il assure une nouvelle collégialité et une meilleure transparence des décisions, puisque nous avons remis dans le statut l'intervention des directeurs de composantes et des directeurs de laboratoire dans la gestion des ressources humaines. Alors je crois qu'on a un texte statutaire qui offre des nouvelles garanties non aux universitaires, mais qui donne quand même aux présidents d'université et aux conseils d'administration des universités autonomes des nouveaux moyens de gestion des ressources humaines qui sont qui forment la première condition d'une autonomie réelle des établissements. Alors oui, ce statut ne va pas aussi loin que je le souhaitais, pas aussi loin dans la démarche d'autonomie des établissements. Mais je crois qu'on ne pouvait pas, en l'état actuel de défiance de la communauté universitaire, aller plus loin. Mais c'est une première étape qui est indispensable et cette étape, elle est aujourd'hui franchie. Alors, la nouvelle université, elle va devoir, j'allais dire, trouver de nouveaux points d'équilibre en son sein, mais aussi avec ses partenaires extérieurs. Les universités autonomes vont désormais être le cœur de notre système de formation et de recherche. Et je dois avouer que c'est la première fois qu'un gouvernement décide, dans notre pays où on a, j'allais dire, depuis François Ier, qui pour faire naître la pluridisciplinarité créait le Collège de France, ou depuis Napoléon, qui pour former les cadres de la nation créait les grandes écoles, on a, par méfiance ou par défiance vis-à-vis de l'université, toujours choisi de créer à côté d'elle des dispositifs, que ce soit des dispositifs d'excellence de formation, comme les grandes écoles, ou que ce soit des dispositifs d'excellence de recherche, comme le CNRS, l'INSERM et les autres organismes. Nous faisons le pari de mettre l'université au cœur. Et ça veut dire, mettre l'université au cœur, ça veut dire lui permettre de nouer d'égal à égal, et je dis bien d'égal à égal, des nouveaux partenariats, à la fois avec les écoles et avec les organismes de recherche. Et c'est vrai que quand on parle de la réforme de l'université, on parle souvent de l'autonomie. On parle et de la liberté et de la responsabilité et de la possibilité de concurrence que cela crée entre les établissements. On parle moins d'un autre volet de la réforme, qui est le volet alliance, le volet solidarité, le volet regroupement universitaire. Et c'est l'autre aspect. Nous avons 85 universités de 125 écoles, nous avons 21 organismes de recherche. Ce paysage est beaucoup trop morcelé et beaucoup trop cloisonné, chacun ayant forcément à un moment donné des réflexes d'établissement. Donc nous voulons décloisonner ce paysage et pour moi, toutes les universités de France ont vocation désormais à faire partie d'un pôle de recherche et d'enseignement supérieur, c'est-à-dire à s'inscrire dans un véritable réseau d'alliances scientifiques et pédagogiques. Et quand je dis toutes, c'est vraiment toutes, parce que je sais le rôle déterminant que jouent les universités pluridisciplinaires dans les villes moyennes, ces universités qu'on appelle les moins de 11 000, parce qu'elles ont moins de 11 000 étudiants. Elles ont moins de 11 000 étudiants, mais elles offrent une formation de proximité qui est indispensable si nous voulons atteindre notre objectif national d'élévation du niveau de qualification de tous nos enfants. Et vous savez que l'objectif de Lisbonne, c'est 50% d'une classe d'âge diplômée de l'enseignement supérieur. Alors, ces universités pluridisciplinaires des villes moyennes, elles ont un rôle à jouer en formation de proximité, elles ont un rôle à jouer d'insertion dans un tissu socio-économique, mais elles sont aussi, et je le dis, tout à fait en mesure de développer des niches d'excellence dans certains domaines de spécialisation scientifique qu'elles auront su constituer. Mais elles pourront d'autant mieux avoir cette politique de niche d'excellence qu'elles seront en réseau avec d'autres. Parce que si on met une école doctorale commune dans un pôle de recherche d'enseignement supérieur, on peut imaginer que certains très bons chercheurs aillent sur le site de tel ou tel pour développer tel ou tel laboratoire. L'exemple le plus flagrant, c'est évidemment l'université de Bretagne occidentale à Brest, qui est dans le pôle de recherche breton et qui développe évidemment des recherches extrêmement pointues en lien avec l'Ifremer sur la mer. Bon, mais c'est un exemple, j'allais dire, emblématique, mais il y en a d'autres. Et d'ailleurs, on peut avoir intérêt à cela. On peut avoir intérêt à développer dans des universités de ville moyenne des laboratoires d'excellence, ne serait-ce que pour capter, j'allais dire, tous les crédits et les fonds disponibles du territoire qui y verrait un pôle d'excellence à cultiver. Mais vraiment, l'urgence, c'était de rassembler notre paysage de recherche et de donner à nos 83 universités, 225 écoles, enfin une lisibilité et une visibilité mondiale. Alors, c'est chose faite. Je pense que d'ici la fin de l'année 2009, je serai en mesure de vous parler non plus de ces 83 universités et 225 écoles, mais de 15 pôles de recherche et d'enseignement supérieur à visibilité mondiale qui se seront petit à petit constitués en France. La dernière question à régler étant évidemment celle du paysage parisien, qui brille à la fois par son rayonnement, par son excellence, mais encore plus aussi par son morcellement. Alors, pour faire rayonner ces pôles de recherche, il fallait aussi, qu'ils soient à l'image de ce qu'on attend d'un pôle de recherche d'enseignement supérieur dans un grand pays développé. Qu'est-ce que je veux dire ? Il y a un décalage, quand on se rend à l'université française, entre sa qualité scientifique et l'état de ses locaux. Alors, je me suis transformée aussi en maître d'ouvrage. Il faut que vous sachiez que quand je suis arrivée dans mon ministère, il n'y avait même pas de mission immobilière, alors que tout l'immobilier universitaire appartient à l'État. C'est vous dire à quel point l'État se souciait d'assurer la qualité de la maintenance et de la construction immobilière universitaire. Donc nous avons évidemment tout remis à plat, et le président de la République a décidé de consacrer 5 milliards d'euros à la naissance de grands campus à visibilité mondiale, donc ces grands presses, les meilleurs qui ont été sélectionnés sur la base d'un concours. Alors, vous les connaissez, hein, c'est Saclay, 850 millions d'euros, ça va être Condorcet, le pôle de la Cité des sciences sociales et des humanités, ça va être le quartier latin, faire revivre un quartier latin, mais un nouveau quartier latin, celui du 21e siècle, celui qui va, si vous me le permettez, de l'hôpital Georges Pompidou au Grand Moulin de Paris, et jusqu'à la Cité Jourdan dans le 14e, donc à une rive gauche, un quartier latin élargi à toute la rive gauche. Et puis il y aura l'université de Toulouse, l'université de Lyon, l'université de Grenoble, l'université de Montpellier. Loin de moi l'idée de penser que tous les mariages sont des mariages d'intérêt, mais je dois à l'honnêteté de dire que ces centaines de millions d'euros qui viennent en dotation en capital cimenter les alliances universitaires est un facteur de... d'unification de notre paysage, de restructuration de notre paysage très fort. Et le presse de Grenoble ou le presse de Montpellier n'aurait sans doute pas vu le jour s'il n'y avait pas eu l'opération campus derrière l'intérêt majeur que les universités avaient à mutualiser leurs demandes et à se mettre ensemble. Donc, nous avons une dizaine de campus qui sont en train de voir le jour, une douzaine de campus d'excellence qui sont en train de voir le jour dans notre pays. Et ce sont vraiment des projets scientifiques, fédérateurs et innovants qui rassemblent les universités, les écoles et les organismes de recherche sur un territoire. Et je crois qu'ils bâtissent l'université française de demain, celle qu'on trouve dans les plus grands pays développés. Une université qui sera numérique, une université qui va offrir aux scientifiques, aux professeurs et à leurs étudiants des conditions d'études, de recherche et de vie à la hauteur de leurs attentes. Et... Dans un monde multiculturel, concurrentiel et globalisé, c'est évident que la capacité à produire, à transmettre et à valoriser la connaissance est la clé de la réussite de notre pays. Alors, je sais que tous les politiques avant moi l'ont dit. Le problème aujourd'hui, c'est la question de l'effet de levier financier que nous allons pouvoir mettre pour réussir à vraiment, faire un saut scientifique, technologique, et faire un saut aussi dans la formation de notre capital humain. Et vous avez vu que tout récemment encore, le président de la République et le Premier ministre, hier, ont annoncé que dans le grand emprunt qu'ils envisageaient, ils voulaient mettre le débat sur l'université de demain, ils voulaient mettre le débat sur les technologies clés du futur. Et c'est très important. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche est doté des 5 milliards d'euros du plan campus, d'1,8 milliard de crédits budgétaires supplémentaires depuis 2 ans, et aussi de 630 millions d'euros dans le cadre du plan de relance. Et à cela s'ajoutera le grand emprunt. Mais je crois que nous avions vraiment besoin de ces moyens. Alors, pour savoir quels sont les sauts scientifiques et technologiques que nous devons faire et comment l'université peut les aborder, nous avons mené depuis 6 mois, à la demande du président de la République, un travail qui s'appelle la Stratégie nationale de recherche et d'innovation. Cette Stratégie nationale de recherche et d'innovation, nous l'avons conçue comme nous avons conçu le Grenelle de l'environnement, c'est-à-dire que ça a été une rencontre entre 500 personnes très différentes, des chercheurs publics, des excellents chercheurs publics, les représentants des entreprises les plus technologiques françaises, et puis des organisations non gouvernementales porteurs d'enjeux, associations de l'environnement, associations de malades, etc., etc. Et nous les avons mis autour de la table et nous leur avons demandé de réfléchir aux grands enjeux, aux grands défis du XXIe siècle, que ce soit des défis sociétaux, que la recherche peut aider à relever, ou bien des défis de la connaissance pure. Et cette stratégie nationale de recherche et d'innovation, dont je vous livre, j'allais dire un petit peu en avant-première, les premières pistes, a abouti à serrer un certain nombre de priorités. En touchant, ciblant les technologies clés qui nous manquent aujourd'hui. Et donc, évidemment, les priorités, c'est la santé, l'alimentation, le bien-être, l'urgence environnementale avec toute la question énergétique, d'habitat durable, de mobilité durable et de protection de l'environnement, et enfin la question de la communication au sens très large, de l'information et de la sécurité avec l'Internet du futur et les nanotechnologies. Mais je pourrais détailler ça si ces sujets-là vous intéressent. En portant cette véritable stratégie de recherche, nos organismes et nos universités vont pouvoir engager des coopérations qui sont plus fécondes. Et là aussi, ce que je veux dire, c'est que ce paysage de ce nouveau dessin de l'université va aussi avec un nouveau dessin du paysage des organismes de recherche. Nous avons créé un grand consortium pour la recherche agronomique avec l'INRA, le CIRAD et les écoles d'agronomie. Nous sommes en train de créer l'Alliance pour les sciences de la vie et de la santé qui réunit les universités, le CNRS, l'INSERM, l'Institut Pasteur, etc. Et je souhaite que le CNRS se réorganise pour lui aussi participer pleinement à toutes ces alliances. Il nous faut une alliance dans le domaine de l'énergie, il nous faut une alliance dans le domaine des technologies de l'information, toute alliance qui vont faire vivre les priorités de la stratégie nationale de recherche et d'innovation. Alors le CNRS. Le CNRS, désormais partenaire d'universités autonomes, doit se garder d'une tentation ou d'un réflexe qui serait celui du repliement sur lui-même. Il doit au contraire assumer pleinement son rôle de stratège. Un organisme national pluridisciplinaire comme le CNRS doit être stratège. Et il doit être stratège dans la définition, ou dans l'aide à la définition, de grands programmes de recherche nationaux. Alors, le CNRS agira de plusieurs manières. Il sera tutelle scientifique, il sera pour partie opérateur de recherche. Mais il doit se réorganiser en institut disciplinaire fort. Pourquoi en institut disciplinaire fort ? Parce que c'est sur des disciplines fortes qu'on construit la bonne pluridisciplinarité. Et c'est des instituts disciplinaires qui auront une vraie stratégie pour leur discipline, que ce soit les maths, que ce soit l'écologie, que ce soit les technologies de l'information. Et enfin, il accentuera son rôle en tant qu'agence de moyens dans les unités mixtes de recherche universitaire auxquelles il apportera du personnel, de l'expertise scientifique et aussi des moyens. Son action sera décisive, notamment pour tout ce qui est programme de long terme et tout ce qui nécessite des investissements lourds et risqués. Mais là aussi, c'est un partenariat d'égal à égal avec les universités désormais renforcées, que le CNRS doit construire. Et je souhaite que nos chercheurs soient davantage associés aux missions de l'université, et notamment à sa mission d'enseignement. Nous allons mettre en place un certain nombre de dispositifs qui vont encourager davantage nos chercheurs à enseigner. Et puis, nous allons simplifier radicalement le fonctionnement de nos unités de recherche en proposant une évaluation unique, externe, impartiale, transparente, celle faite par l'Agence d'évaluation de la recherche. Enfin, nous confierons aux universités, dans une logique, là encore, d'efficacité, la gestion de la propriété industrielle des brevets dans les unités mixtes. Parce que ces unités mixtes, qui sont la pierre angulaire de notre système de recherche, 1200 unités mixtes, qui sont le lieu de la rencontre entre les chercheurs du CNRS, de l'INSERM, de tous les organismes, des écoles et des universités, ces unités mixtes doivent avoir une gestion totalement revue et simplifiée pour redonner du temps de recherche aux chercheurs, tout simplement. Et simplifier cette gestion, ça veut dire donner un mandat de gestion unique aux universités qui sont celles qui hébergent ces unités, apprendre aux universités à gérer ces unités, et puis qu'elles puissent gérer la propriété intellectuelle née des découvertes de ces unités. Et nous créerons en septembre des organismes de valorisation de la recherche, parfois même qui prendront la forme parfois même de sociétés privées, au sein des pôles de recherche d'enseignement supérieur pour assurer la vie de ces brevets. Parce que vous le savez bien, nous sommes un très grand pays de recherche, mais nous ne sommes plus dans le peloton de tête des grands pays d'innovation. Et tout ce continuum entre recherche publique et recherche privée, c'est cela que nous devons construire. Alors, je ne vous ai pas parlé d'Europe, j'aurais dû, parce qu'évidemment, l'université française ne se construira pas en dehors des partenariats européens. Mais c'est une question que vous aurez peut-être, et mondiaux, que vous aurez peut-être à cœur de me poser. Voilà. Alors, vous l'avez compris, notre vision, c'est un système de recherche qui se consolide, qui se rassemble autour d'universités fortes et autonomes, des universités qui sont le seul lieu de la rencontre entre les étudiants et les chercheurs. Alors, bien sûr, il y a loin de la réforme à la Renaissance, mais peut-être même si dans l'histoire elles se sont produites en même temps. Mais je suis convaincue qu'au-delà des choix stratégiques qui sont faits par le gouvernement, l'université française est en train de prendre son destin en main. Et c'est cela qu'il faut qu'elle fasse, forte d'un nouveau projet et d'une nouvelle capacité à le mener à bien, au sein d'un paysage scientifique qui va être conforté, et notamment conforté par des nouveaux moyens et une nouvelle reconnaissance. Voilà, la refondation des universités françaises ne fait que commencer. Elle doit se nourrir d'un débat ouvert et constant, et je serais très heureuse de lancer ce débat, y compris avec les membres de l'Académie et de l'Académie des sciences politiques. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup. Madame le ministre, l'un des problèmes des universités, c'est celui des premiers cycles. Et c'est celui de la concurrence avec les classes préparatoires, puisque, comme vous le savez, les bons lycéens vont majoritairement dans les classes préparatoires, et les événements de ce dernier printemps ne sont pas faits pour les en dissuader, au moins pour ce qui est des domaines littéraires, puisque les sciences et la médecine, bien sûr, ont été beaucoup moins touchées que les humanités. J'ai entendu dire, et c'est un bruit qui court depuis longtemps, qu'on envisageait, je ne sais pas si cette idée vous revient, de créer des classes préparatoires dans les universités. Ce serait un petit peu cruel que les universités puissent, je dirais, chauffer les meilleurs étudiants pour ensuite les verser dans le système des classes préparatoires, alors que jusqu'à maintenant, dans beaucoup d'universités, nous avons l'impression de faire vraiment notre métier, même si faire cours en premier cycle est une nécessité, de faire vraiment notre métier en master. Et c'est le moment où nous perdrions ces bons étudiants que nous aurions bien préparés pour les grandes écoles. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer plus tôt, je ne sais pas comment vous réagissez à cette suggestion, que les élèves des classes préparatoires viennent suivre une partie de leurs enseignements dans les universités, en particulier certains cours magistraux qui leur feraient le plus grand bien et qui sont réalisés par des très grands chercheurs, qui parfois ont un peu, il faut bien le dire, l'impression de perdre un tout petit peu leur temps, de prêcher dans le désert, au moins lorsqu'ils enseignent en première année où il y a un taux d'échec énorme. S'ils avaient cet apport de bons étudiants venus des classes préparatoires, je crois que ça les stimulerait beaucoup, que ça rendrait un grand service aux élèves des classes préparatoires et qu'ensuite, cela favoriserait peut-être les liens entre les grandes écoles et les universités qui ont quand même beaucoup de mal, surtout, pas dans tous les domaines, mais qui ont quand même beaucoup de mal à s'établir de manière efficace pour le moment, compte tenu des différences de méthodes, de moyens, de culture entre les universités et les grandes écoles.
Je crois, professeur, que nous avons exactement le même objectif. C'est-à-dire, en réalité, faire dans les premiers cycles universitaires la preuve qu'être formé par un professeur d'université, ça peut mener à une excellence intellectuelle qui ouvre toutes les portes. Et moi, mon objectif, c'est de dire aux universités, eh bien, relevez le défi. Faites-nous des licences, puisque maintenant, une classe préparatoire donne l'équivalent d'une licence au bout de 3 ans. Faites-nous une licence de formation culturelle et intellectuelle, pluridisciplinaire, qui pourra mener éventuellement des jeunes dans les grandes écoles, mais qui pourra aussi les mener dans les masters universitaires. Et donc, c'est la possibilité pour les universités de venir, j'allais dire, un petit peu damer le pion au lycée sur leur propre terrain. Pourquoi j'ai voulu faire ça? Par exemple, le témoignage du président de Toulouse 1. Toulouse 1 est une université qui est devenue autonome, l'université de sciences économiques et de gestion et de droit. Et Toulouse 1 a aujourd'hui Toulouse Sciences Économiques, qui est un laboratoire de recherche qui est au niveau Master 2, qui est meilleur que la London School of Economics. Eh bien, le président toulousain était désespéré, me disait, les classes moyennes de Toulouse préfèrent encore envoyer leurs enfants à l'ESC Toulouse qu'en premier cycle à Toulouse 1. Et donc, en lui disant, mais faites des classes préparatoires. Si les jeunes arrivent, s'aperçoivent qu'effectivement, il y a un très bon premier cycle, classe préparatoire, donc sur dossier, avec l'apport. Parce que ce qu'ils veulent faire, c'est pas dupliquer la classe préparatoire du lycée. C'est-à-dire pas mettre des professeurs agrégés du secondaire, mais mettre des universitaires. Et moi, je suis sûre qu'il va y avoir un déclic qui va se produire et on va s'apercevoir de ce qu'on sait déjà. C'est-à-dire qu'en réalité, nous avons une partie des meilleurs étudiants qui ne rencontrent pas les meilleurs professeurs. Et ça revalorisera aussi l'enseignement en premier cycle. Parce que des grands professeurs qui, jusqu'à présent, avaient délaissé les premiers cycles auront peut-être envie de construire ce projet de classe préparatoire pour justement montrer que la qualité de la formation universitaire rivalise très largement avec la qualité des classes préparatoires des lycées. Alors je n'ignore pas que ça suppose des nouveaux moyens. Et donc, tout cela, enfin, on aura l'occasion d'en débattre dans les semaines qui viennent. Ça veut dire qu'il faut effectivement pouvoir faire ses premiers cycles universitaires. Mais après, mon objectif est aussi d'aller vers la codiplomation au niveau master entre grande école et université, et d'aller vers des filières doctorales communes. C'est donc en réalité de gommer cette guerre universitaire qui oppose filières sélectives, filières sous-sélectives. Pour moi, cette frontière, j'allais dire, elle est obsolète. Les IUT sont sélectifs, ils sont dans les universités. Les écoles d'ingénieurs internes sont dans les universités. Il y a un certain nombre de filières sélectives à l'université. Il y a des filières non sélectives. On a une question sur le baccalauréat comme clé d'accès à l'enseignement supérieur. Il faut qu'on... Bon, la réforme du lycée est là pour justement travailler à ce que ce baccalauréat donne un vrai socle de connaissances et de compétences à nos lycéens qui leur permettent d'envisager toutes les filières universitaires. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, je pense qu'il faut gommer ces oppositions stériles et qu'il faut que l'université soit symbole d'excellence. Et comme malheureusement, dans notre pays, pour certaines familles, l'excellence est d'abord école. Je pense que le fait de mettre des classes préparatoires aux grandes écoles dans l'université, c'est-à-dire de dire les premiers cycles universitaires prépareront aussi aux grandes écoles, ça peut être un facteur attractif pour les étudiants et pour les enseignants, chercheurs.
Merci. Monsieur Soutou.
Merci, monsieur le président. Madame le ministre, je serai très bref parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Je me contenterai donc de vous poser une question peut-être précise. Si elle est trop précise, vous me pardonnerez. Mais vous nous avez exposé les axes de la nouvelle stratégie de recherche et je voudrais que vous me rassuriez ou que vous précisiez quelque chose. Je dis tout de suite que je suis historien, donc très neutre à l'égard des axes que vous avez décrits, pour qu'il n'y ait pas de malentendu. J'ai eu un peu l'impression, en vous entendant, que ces axes, finalement, reprennent des secteurs de recherche dans lesquels la France, par différents organismes bien connus, est déjà active depuis fort longtemps. Est-ce qu'il y a une place, je suppose que oui, mais enfin laquelle serait ma question, pour deux domaines dont j'entends parler partout en Allemagne, en Suisse, dans les pays scandinaves, aux États-Unis, qui sont les biotechnologies, les nanotechnologies, et évidemment le point de rencontre entre les deux?
Ah oui, je n'ai pas détaillé la stratégie de recherche, mais il est évident que toutes les nanosciences et les nanotechnologies sont vraiment au cœur. Je viens de lancer un programme de 70 millions d'euros qui s'appelle NanoInnov, qui va travailler sur les nanotechnologies et les nanosciences, parce que les deux vont ensemble. Il faut vraiment, mon combat, c'est de réussir à faire travailler ensemble nos chercheurs de recherche fondamentale avec tous nos technologues et nos entrepreneurs. C'est ça le nœud du problème français, si je puis dire. C'est de réussir ce continuum. C'est de réussir ce qu'a, par exemple, Albert Fert, notre prix Nobel de physique en nanosciences. Le brevet, c'est les Allemands qui l'ont déposé. Et aujourd'hui, c'est les résultats de la spintronique et de la magnétorésistance géante sont dans tous nos iPods, dans tous nos micro-ordinateurs. Ils ont permis de miniaturiser donc les composants. Donc on a un vrai problème de relation entre les deux. Et NanoInnov, c'est un cluster scientifique dans lequel on mettra à la fois des chercheurs du CNRS très fondamentaux, des chercheurs du CEA, des universitaires et en même temps les milieux économiques spécialisés dans trois domaines. Les nanotechnologies de la santé, les nanotechnologies de l'information et les nanotechnologies des matériaux. Donc voilà, les trois secteurs. Donc on a déjà 70 millions d'euros, mais à mon avis, on peut aller plus loin. On est cinquième pays au monde en matière de publication en nanotechnologie. Donc on est dans le peloton de tête, cinquième. Si on rapporte ça au nombre d'habitants, c'est une bonne performance. On est un peu derrière la Grande-Bretagne et l'Allemagne, mais ça se rattrape. Et en revanche, on est bien plus loin. Je ne me souviens plus de la place, mais on est bien plus loin en termes de dépôt de brevets. Et donc, on a un problème. C'est qu'aujourd'hui, par exemple, un certain nombre de nos chercheurs fondamentaux travaillent pour des laboratoires coréens, sans le savoir. Parce que les laboratoires coréens, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils font de la veille technologique. Ils font de la veille scientifique. Et dès qu'ils voient des publications de recherche intéressantes, etc., ils font travailler tout de suite leurs équipes sur la récupération de la recherche fondamentale de très bonne qualité. Donc il faut absolument qu'on ait, et c'est vraiment l'une des préconisations les plus fortes de la SNRI, de la Stratégie Nationale de Recherche, pardon, j'arrête les cils, c'est de dire, faites-nous, construisez-nous des lieux où se rencontreront à la fois les entreprises, les ingénieurs de recherche et la recherche la plus fondamentale, y compris universitaire. Et c'est pareil en biotechnologie, hein, même processus en biotechnologie.
Madame le ministre, j'aurais juste quelques petites questions, peut-être sur lesquelles vous n'avez pas à répondre si cela vous est difficile. Première question, est-ce que dans votre redéfinition du statut des universitaires, vous leur gardez leur statut de fonctionnaire ou est-ce que vous les alignez sur la norme européenne qui ne leur reconnaît plus le statut de fonctionnaire? Et que faites-vous à l'égard du statut des chercheurs du CNRS? Est-ce que vous leur gardez aussi leur statut de fonctionnaire ou non? Que faites-vous de l'énorme bureaucratie qui s'est accumulée au CNRS pour gérer toutes les unités de recherche et qui donnait à ces unités de recherche, même quand elles étaient mixtes avec l'université, beaucoup de satisfaction parce que c'était beaucoup mieux géré que par les organes universitaires? Est-ce que vous allez reverser ce personnel que vous ne pouvez pas liquider dans les universités? Est-ce que vous allez donner aux universités des crédits beaucoup plus considérables pour arriver à faire le travail? Est-ce que vous allez donner une formation continue au petit personnel des universités pour qu'ils soient capables de le faire? Je vais m'arrêter là parce que...
Oh là là, vous me posez toutes les bonnes questions. Sur le statut de fonctionnaire, bon, il n'est pas question de revenir sur le statut de fonctionnaire ni des universitaires ni des chercheurs, sachant bien entendu que ça constitue pour nous, non pas sur les universitaires parce qu'ils ont une double mission de transmission et de recherche qui s'accommode très bien d'un statut de fonctionnaire en réalité et dans de nombreux pays, les professeurs, en tout cas, eux, sont fonctionnaires, professeurs d'université. Ou en tout cas assimilé, parce que même aux États-Unis, quand on a une tenure, on est enseignant à vie. Mais j'en ai parlé avec certains présidents d'universités comme Stanford et Berkeley, ils disent bon, bah, si on n'est pas bon. Alors la seule différence, c'est qu'évidemment, ils renégocient leur salaire chaque année. Donc ça incite à la performance de recherche. Mais bon, cette question du statut, pour moi, n'est pas clé aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui est clé, c'est la mobilisation d'une communauté dans une dynamique de réforme. Et donc, on va laisser ces questions de statut de côté. Sur la question, mais en revanche, on va les rendre beaucoup plus, souples, et on va surtout reconnaître les performances. Et cette évaluation des enseignants-chercheurs, ces primes de responsabilité scientifique, ces primes de responsabilité pédagogique, si vous voulez, rompre en quelque sorte avec une forme d'égalitarisme ambiant qui faisait que si on en faisait bien davantage en termes de suivi des étudiants, en termes d'encadrement, en termes de professionnalisation ou en termes de conception de maquettes de recherche ou en termes de direction d'équipe, on n'y gagnait pratiquement rien. Donc on va pouvoir différencier les salaires, c'est ce que nous demandait l'Académie des sciences, et ça déjà c'est une révolution. Et on pourra différencier les salaires en s'appuyant sur des évaluations. Là aussi c'est un petit peu nouveau. Sur la question de la gestion des unités mixtes, cette gestion, c'est vrai, est assurée aujourd'hui par les directions régionales des organismes, mais de tous les organismes. C'est-à-dire que quand vous êtes le directeur d'un laboratoire d'unité mixte, vous, de 400 unités mixtes ont plus de 4 tutelles. Donc répondent à 4 directions régionales. Ça veut dire 4 systèmes de financement, 4 systèmes de gestion du personnel, 4 systèmes d'évaluation, 4 tout. C'est 400 et c'est nos meilleures unités. Donc l'idée de transmettre le mandat de gestion aux universités est l'idée, qui est la plus naturelle. Mais là où vous avez totalement raison, c'est que Le CNRS a une pratique et une réflexion sur comment on peut gérer une unité de recherche qui est bien plus avancée que les universités. Alors, j'ai fait travailler pendant 3 mois un spécialiste du CNRS et un inspecteur général de l'administration, et nous avons identifié tout ce que les universités pourraient faire et qu'elles ne font pas, qui simplifierait la vie de leur directeur d'unité. De la carte à faire pour gérer les achats, du fait que tous les achats des universités devraient être achats scientifiques, de façon à échapper à la contrainte de la mise en concurrence des marchés publics. Le fait qu'il faut déléguer évidemment la signature du directeur du FR au directeur du laboratoire pour qu'il puisse faire toutes sortes d'achats. Le fait que la fonction d'organisation des colloques et des séminaires et des billets d'avion soit gérée de manière centralisée par l'université pour qu'il puisse enfin prendre des low cost et pas seulement... voilà. Donc tout ce qu'on peut faire pour simplifier et auquel les universités n'ont pas pensé parce que c'était une administration, l'université. Et donc, elles n'étaient pas créatives. Donc, on leur a fait toute la liste, et je vais leur adresser toute la liste de tout ce qu'elles pourraient, dans le cadre de la loi, faire pour simplifier la vie de leur directeur de laboratoire. Et j'ai pris partout les meilleures pratiques du CNRS, les meilleures pratiques de l'INSERM, les meilleures pratiques de partout. Et là où on pouvait, une autre chose, les achats de toutes taxes comprises, parce que les laboratoires font des horribles jongleries de TVA, etc. Enfin, bref. Je vous passe tous les détails, mais on peut simplifier complètement la gestion. Alors, on va faire une première expérimentation avec Paris 5 et Axel Kahn et l'INSERM très vite. Et ça représentera près de 33% des unités mixtes de l'INSERM qui vont être déléguées à Paris 5. Alors, évidemment, il faut former les personnels. Et vous avez posé une question tout à fait sensible sur la question des compétences, mais c'est une question que nous nous poserons un tout petit peu plus tard.
Oui, vous nous avez invité à vous poser une question sur l'Europe. Alors, je vous pose la question sur l'Europe. Quelles mesures envisagez-vous ? Est-ce que vous pensez en termes de mise en réseau, une extension de la mise en réseau ? Est-ce que vous pensez à une harmonisation et dans quel domaine ? Est-ce que ce serait en direction des questions sensibles comme la sélection ou les critères d'évaluation ? Est-ce que vous avez d'autres projets sur l'Europe ? Et malheureusement, il reste très peu de temps. Mais...
Alors, il faut que vous sachiez que le processus de Bologne auquel j'ai assisté tout récemment a montré qu'on avait un vrai problème à aller plus loin dans la dynamique d'harmonisation européenne, notamment sur toutes ces questions d'entrée à l'université, de financement privé à l'université, etc. La diversité des pays et des traditions et des cultures, parce que l'université, c'est vraiment évidemment le fruit d'une culture, fait qu'on a beaucoup, beaucoup de mal à aller plus loin dans l'harmonisation des pratiques universitaires dans les pays d'Europe, parce qu'elles sont vraiment tellement à l'opposé les unes des autres, si on prend les anglo-saxons ou si on prend les Italiens, les Espagnols. Enfin, on n'est plus du tout dans les mêmes logiques. Donc, on a du mal à aller plus loin dans l'harmonisation. Donc, ce que la France a porté dans ce processus de Bologne, c'est une exigence d'avoir au moins 20% des étudiants au niveau master qui fassent une mobilité européenne. Dans un des pays du processus de Bologne. 20% à horizon 2020. Ça peut paraître peu, mais on a déjà dû batailler pendant à peu près 6 mois pour l'obtenir. Alors, ce que je souhaite faire, moi, je me suis battue pendant toute la présidence française de l'Union pour obtenir des reconnaissances mutuelles. Il faut que vous sachiez, quand je suis arrivée dans ce ministère, on avait 6 accords de reconnaissance mutuelle des diplômes au sein de l'Europe à 27. Bon, je ne suis pas extrêmement fière de moi, on en est... qu'à 10, en fait. Mais c'est vraiment très difficile à porter. Un grand nombre de pays en font une question de souveraineté, de la question des diplômes. Et donc même des pays, excusez-moi, grands par leur histoire, mais qui nous paraissent peut-être sur la carte aujourd'hui petits, par exemple la Grèce, pour la Grèce, c'est une question constitutionnelle. Il n'est pas question qu'elle reconnaisse les diplômes français. Nous, quand on va en Grèce, on a l'impression que, bon, voilà, si la France dit « je reconnais le diplôme grec », il pourrait, sur la base de la réciprocité, considérer que... Pas du tout. Je veux dire, il n'y a pas plus grande fierté que la fierté d'un peuple liée à son éducation et à sa culture. Et donc, du coup, ce processus européen est très complexe. Mais je pense que ça passe vraiment par la mobilité. Je pense que ça passe par la codiplomation et la reconnaissance mutuelle. Alors, sur la codiplomation, on commence à être vraiment assez, assez solide. Alors, j'ajouterais quand même qu'un mouvement de 5 mois dans les universités françaises ne fait pas grand-chose pour renforcer, j'allais dire, l'attractivité de l'université française aux yeux de ses partenaires étrangers. Il y a une chose qui est très bien dans le nouveau statut des enseignants-chercheurs que nous avons fait passer, qui est passé un peu inaperçu, mais c'est que j'ai obtenu que désormais tous les professeurs européens et les maîtres de conférences européens qui viendraient se faire recruter en France ne soient plus considérés comme des nouveaux entrants dans la carrière, c'est-à-dire n'aient pas besoin de passer par la procédure de la qualification traditionnelle qui leur fait perdre en réalité 6 mois, mais qu'ils soient considérés comme en mobilité. C'est-à-dire que l'université fasse un jury et puisse les recruter immédiatement. Ça m'a valu 6 heures de négociations syndicales. Mais bon, il y avait la jurisprudence du Conseil d'État qui était quand même un tout petit peu qui nous forçait un petit peu dans cette voie. Mais bon, c'est déjà un premier pas. Voilà. Alors sur la recherche, l'Europe peut jouer un rôle excessivement important. Notamment, elle a joué un rôle excessivement important dans l'incitation qu'elle nous a faite à valoriser l'excellence. L'European Research Council, qui donne 1 million d'euros sur 5 ans à un chercheur junior ou un chercheur senior pour mener ses recherches, nous montre dans quelle voie l'Europe veut aller. C'est-à-dire l'Europe veut aller dans la différenciation, dans l'excellence. Et nous sommes l'un des premiers pays d'accueil des European Research Council, des chercheurs de l'European Research Council. Donc ça, c'est très important. Et enfin, il y a un dernier outil que nous avons mis en place dans la présidence française, qui est la programmation conjointe en matière de recherche. La programmation conjointe en matière de recherche, au niveau européen, se distingue du programme cadre de recherche habituel, qui est un programme technocratique, rédigé par la Commission, avec des lignes, etc., etc. La programmation conjointe, c'est un processus politique. C'est-à-dire, c'est des pays de l'Union européenne qui disent « Nous avons une urgence, Alzheimer, nous avons une urgence européenne, sociétale, de recherche. Eh bien, nous allons tous chercher ensemble. Et au lieu de doublonner, au lieu de financer chacun notre programme sur les mêmes sujets, nous allons faire des appels à projets et nous prendrons les meilleurs. Et nous allons faire des cohortes européennes pour identifier les facteurs sociaux et les facteurs environnementaux de la maladie. Et nous allons mettre en place des très grandes infrastructures, d'IRM, par exemple, etc. » Donc, la programmation conjointe, c'est un outil très puissant, totalement politique, au service d'un espace européen de la recherche. Et c'est un des fruits de la présidence française et du souhait du président de la République.
Vous avez dit que, je cite exactement, il y a loin de la réforme à la renaissance. Tout à l'heure, nous avons Jean-Robert Pitt, votre voisin, nous a fait une communication où il a dit au passage, très rapidement d'ailleurs, il a parlé avec admiration des réformes que faisait la Belgique, et qui allait beaucoup plus loin, si j'ai bien compris, dans les réformes universitaires que la France, si j'ai bien retenu.
Et les Pays-Bas.
Bon. Alors, en France, nous avons un régime politique fort, un président de la République extrême, qui n'est pas fort, qui est extrêmement fort. Bon. Le Premier ministre belge, je veux dire qu'à l'instant, j'aurais du mal à citer son nom, je devrais le savoir d'ailleurs, et on connaît aussi, pas toujours, le Premier ministre des Pays-Bas. Alors ma question, c'est qu'est-ce qui se passe ?
Écoutez, je crois qu'une réforme universitaire est le fruit d'une histoire, et c'est le fruit d'une tradition nationale. La France n'a pas de tradition décentralisatrice. La France est un pays jacobin, la France est un pays unitaire, et particulièrement dans le domaine de l'éducation. Et nous avons fait des choix qui sont des choix très structurants. Nous n'avons absolument pas le même modèle que la Belgique ou les Pays-Bas. Nous ne faisons pas forcément confiance, en la capacité d'un territoire ou d'un établissement à se gérer lui-même. Je crois que c'est vraiment très... Alors, il y a aussi le fait que depuis 25 ans, à chaque fois qu'on tente cette réforme de l'université, parce que la loi Savary s'appelait loi d'autonomie, je me demande même si la loi Edgar Ford ne s'appelait pas aussi la loi autonomie. Donc on voit bien vers quelle direction il faut tendre. Ça fait, je suis né en 67, ça fait 40 ans qu'on tend dans cette direction sans y aller. Donc il y a aussi le fait que, on a une tradition française de mouvement universitaire très puissant, qui n'est peut-être pas non plus totalement celle de nos voisins et qui ont fait reculer le pouvoir politique pendant des années et des années. Moi, ce que je pense, c'est que si on vit cette réforme de l'université, non pas comme la réforme ultime, mais comme une réforme en marche, comme un processus, dans lequel il faut que nous attirions l'ensemble de la communauté universitaire, ou en tout cas la partie qui souhaite qu'on bouge et qu'on continue d'avancer, je pense que l'autonomie peut être la clé qui débloque le système. Mais ça veut dire qu'il faut maintenir la pression. Ça veut dire qu'il faut une continuité dans l'action. Ça veut dire qu'il ne faut pas s'arrêter maintenant. Et ça veut dire qu'au contraire, le débat, il est lancé, il doit se poursuivre. Mais on n'y arrivera pas sans la communauté universitaire elle-même. Et c'est vrai que par certains aspects, la réforme belge ou la réforme des Pays-Bas peut sembler aller davantage dans le bon sens sur certains sujets, mais ils n'ont pas notre tradition et notre histoire. Donc on ne peut pas non plus totalement comparer ce qui n'est pas comparable. Moi, je suis prête à continuer d'avancer, moi, je suis prête à continuer d'aller plus loin. Mais le problème, c'est qu'il faut bien voir qu'à un moment donné, la réforme, c'est un élastique qui se tend. Et si on fait claquer l'élastique, c'est 86, c'est 93, c'est 2005. Et donc, c'est un retour en arrière. Nous, là, j'allais dire, on a tendu l'élastique au maximum de ce qu'on pouvait tendre. J'allais même dire, je me serais vraiment bien passé de 5 mois de mouvement universitaire. C'est quand même le deuxième mouvement sur cette loi. Mais je crois vraiment qu'aujourd'hui, il y a une phase d'appropriation de la réforme par la communauté, et puis il y a une phase d'expression de la communauté universitaire et scientifique de ce qu'elle veut. Je crois que là, en France, on attend trop de choses de l'État, on attend trop de choses de la loi, on attend trop de choses du pouvoir central. Cette réforme ne réussira que si les acteurs eux-mêmes se l'approprient. Voilà, c'est le seul message que j'ai. Et s'ils demandent à la ministre d'aller plus loin, la ministre sera très à l'écoute des attentes de la communauté étudiantine ou universitaire. Mais moi, j'ai dit aussi aux syndicats étudiants, je leur ai dit, ayez aussi à cœur les intérêts des étudiants. Et sur un certain nombre de sujets que je n'évoquerai pas aujourd'hui, mais j'imagine que Jean-Robert Pic les a évoqués, sur un certain nombre de sujets, il y a des aberrations aujourd'hui dans le système qui vont contre les intérêts des étudiants. Je pense qu'à un moment donné, dans le cadre de l'autonomie, on va se mettre à réfléchir plus sereinement sur les aberrations du système, plus sereinement qu'on ne le fait aujourd'hui dans un système ultra-centralisé, où toute réforme est ultra-politique, et où elle fait appel à des réflexes qui sont des réflexes, j'allais dire, contre le changement, voilà, anti-changement. Alors que si le changement, c'est la communauté universitaire qui le porte, elle se l'appropriera d'autant mieux.
Vous venez d'entendre la retransmission de la communication de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Valérie Pécresse, sur la réforme des universités, prononcée le 29 juin 2009 lors de la séance hebdomadaire de l'Académie des sciences morales et politiques.